Session philosophique sur la personne par le Père Philippe, le 13 juillet 1989 à Saint-Jeudard.
On va continuer cet effort au plan philosophique pour découvrir toute la richesse de cette affirmation que nous faisons facilement, mais à laquelle souvent on ne réfléchit pas beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire quand nous disons « je suis » Tout ce qui est impliqué dedans. Alors avant, je réponds à quelques questions. Pouvez-vous reprendre la distinction entre nature, individu et personne? La nature se dit-elle pour l'espèce? La personne n'est-elle pas plus que l'individu? Toute nature humaine est-elle une personne? Oui, on verra ça progressivement dans l'intégration du je suis. Le je suis est concret. Je suis un individu, c'est bien évident. Je ne suis pas une idée. Je corresponds peut-être à une idée de Dieu sur moi, mais je suis un individu. Donc l'individu, c'est ce que nous pouvons toucher, expérimenter. On expérimente un individu. La personne, c'est justement ce que nous cherchons. On verra, la personne implique toute une série d'éléments, de principes, de réalités. C'est un tout. La nature, c'est un principe. C'est donc quelque chose de très déterminé, la nature humaine. Quand je dis principe, justement, je veux dire que c'est l'intelligence qui a précisé que la nature, je la saisis à partir de certaines opérations. Quand vous regardez un crapaud, vous voyez que sa nature est distincte d'un poisson. Bien qu'il puisse y avoir des parentés. Quand le crapaud est dans l'eau et qu'il nage, voyez, vous regardez ce qui caractérise un être, la nature, ce qu'il distingue de toutes les autres qui ont même nature. Il y a beaucoup de crapauds. Et il reste toujours à peu près avec la même manière de marcher qui est très élégante, c'est pas la même manière de nager. Et vous avez un sentiment d'amour extraordinaire pour n'importe quel crapaud. Ça vous séduit, quoi. Alors vous voyez bien que la nature, c'est une détermination. Il y a des animaux sympathiques et des animaux moins sympathiques. C'est curieux, les goûts de Dieu. C'est pas dans les psaumes que les crapauds louent le Seigneur. Ou les grenouilles, quand ils sont dans un lac et qu'ils chantent toute la nuit, c'est très agréable, n'est-ce pas? Il y a deux cœurs, ordinairement. Et là, vous voyez que la distinction, ce qui est immédiatement existant, ce qui forme quelque chose de beaucoup plus complexe, et ce qui est très déterminé. En gros, je dis ça. Et c'est ça, la nature. Principe. Détermination. prise à partir d'une opération, du mouvement. C'est surtout du mouvement. Le vivant se meut. Et en se mouvant, il se caractérise. Il se manifeste. Puis il y a aussi la physionomie. Alors ça, c'est plus pour la vie végétative. Une feuille. Quand vous voyez une feuille par terre, vous pouvez tout de suite dire « Ah, c'est tel arbre !» Vous voyez ? Le caractère. C'est caractéristique, la nature. Quand je dis « je suis », je touche l'être immédiatement à moi. Je touche l'être immanent à moi. N'est-ce pas un peu la même chose quand je dis « je pense donc je suis » ? Non. Très bonne question. Je voulais revenir hier au soir. Vous voyez, Descartes part de la conscience. J'ai dit « la conscience, j'ai conscience de penser ». La conscience n'est pas la pensée. Donc c'est déjà quelque chose de réflexif. La conscience. Et quelque chose de réflexif, c'est une relation, la conscience. C'est très curieux, qu'est-ce que c'est que la conscience ? Pas si commode que ça de préciser ce que c'est que la conscience. Il y a des gens qui n'ont pas de conscience. Ou très peu, très peu. Mais souvent, vous voyez, on parle de la conscience morale. Au plan philosophique, il faut bien distinguer conscience morale, conscience psychologique et conscience philosophique. C'est pas la même chose, tout ça. Mais ce qui est toujours juste, c'est que la conscience implique un dédoublement. Mais je vois une dualité que je ramène à l'unité. C'est pour ça que c'est toujours dans une réflexion qu'on a conscience de mon activité. Vous avez conscience actuellement d'écouter. Du moins, j'espère. Si vous n'avez pas conscience d'écouter, ça passe au-dessus de votre tête. Donc, si vous avez conscience d'écouter, vous enregistrez. Vous voyez ? Donc, à la fois, vous êtes relatif à un autre et vous êtes relatif à vous-même. Puisque vous absorbez. La conscience est toujours relative à nous. On ramène ça à nous. Donc, il y a la conscience, il y a la connaissance. Et vous avez dit la connaissance, dans ce cas-là de plus profond, penser. Penser l'être, pour prendre le langage de Heidegger. Penser ce qui est. Jugement d'existence. Penser dans un jugement. Jugement d'existence. Et je vous disais hier, c'est l'acte le plus fondamental. Penser l'être. Quand vous réfléchissez sur ce que c'est que penser l'être, vous demeurez dans ce qu'on appelle au plan philosophique l'intentionnalité. Le cogito demeure dans l'intentionnalité. Et je vois que le fondement d'intentionnalité, c'est l'être. Mais je peux atteindre l'être dans un jugement d'existence et je peux demeurer dans l'intentionnalité en restant dans la conscience. C'est toute la différence entre une pensée métaphysique et Descartes. Descartes demeure dans l'intentionnalité, parce que c'est la conscience. Le vécu, la conscience regarde le vécu. Je demeure donc dans l'intentionnalité. Alors évidemment, il faudrait bien comprendre ce que c'est que l'intentionnalité. Ça, c'est un mot philosophique très important, un mot clé. Qu'est-ce que c'est que l'intentionnalité? C'est ce que je porte en moi de la réalité pensée. C'est ce que je porte en moi de la réalité aimée. C'est ce que je porte en moi de la réalité saisie par l'imaginaire. L'imaginaire est dans l'intentionnalité. Le monde imaginaire, c'est un monde d'intentionnalité. L'intentionnalité tend normalement vers le réel. Mais c'est le réel vécu. Ce n'est pas le réel. Autre chose est le réel existant que j'atteins dans le jugement d'existence et que je respecte comme quelque chose d'autre que moi. Autre chose, ce réel que je pense, auquel je pense, que je porte en moi, et c'est l'intentionnalité. Voyez, réfléchissez à quelque chose que nous comprenons tous au plan moral. J'ai l'intention aujourd'hui de passer une très bonne journée. Vous vous êtes levé du bon pied et j'ai l'intention de passer une bonne journée. Et si on est chrétien, on offre sa journée à Dieu, au Christ. J'ai l'intention. Bon, catastrophe dès le petit déjeuner. Pas de café chaud, il n'y a que de l'eau froide. Mais ça n'a pas marché, que voulez-vous, la cuisine n'a pas marché. Et on vous dit tant pis, vous êtes de mauvaise humeur, sauf les gens très vertueux. C'est une épreuve. Immédiatement, la bonne intention s'arrête. Ou bien vous rencontrez quelqu'un que vous aimez bien, qui vous fait une tête invraisemblable. C'est qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous voulez lui demander? Rien. Tête de bois. On vous refuse. Laisse-moi tranquille. Je veux travailler. Oui. Alors immédiatement, votre bonne intention s'arrête. Il y a un mur. Et cette bonne intention, en réfléchissant, va quelquefois se corrompre. Vous aviez l'intention de passer une bonne journée, joyeux, aimable, donné en travaillant, en offrant tout à Dieu. Et puis, un arrêt. Cette bonne intention s'est transformée par votre imaginaire. La folle du logis. Vous êtes replié sur vous, vous avez dit, non, c'est impossible. Alors c'est devenu une velléité. Et puis vous passez la journée. Pas trop mal, mais pas très bien non plus. Ça ne correspond pas du tout à votre intention. Vous voyez, l'intention n'est pas la réalité. C'est ce que vous portez avec une orientation vers une fin. C'est affectif, c'est intellectuel, c'est une orientation vers. Mais ce n'est pas la réalité. Il y a un abîme entre l'intention et la réalité. L'artiste a un projet. Vous voyez ? Le projet de l'artiste, l'idée qu'il porte en lui, c'est encore une intention artistique de réaliser quelque chose. Et il prend une matière, et la matière qu'on lui a donnée n'est pas bonne. Le charpentier, on lui donne du bois vermoulu. Il ne peut rien faire avec. Alors, l'intention ne se réalise pas. Il y a donc là encore un mur entre le projet et l'œuvre réalisée. Vous êtes dans un examen, vous avez bien préparé, on vous donne un sujet, vous y pensez, puis impossible de réaliser. Un trou. L'intention ne peut pas se réaliser. Vous voyez ? Alors, de l'intention à l'intentionnalité, quelle différence y a-t-il entre les deux ? C'est la même différence entre blanc et blancheur. Petite distinction très importante entre libre et liberté. On passe du concret à l'abstrait. L'intention, c'est un acte concret. Un projet, c'est un acte concret. Et l'intentionnalité, vous passez à l'abstrait. Cette manie de l'intelligence humaine de passer à l'abstrait. Blanc, blancheur. Est-ce que vous avez expérimenté la blancheur ? Non. Vous n'avez jamais vu la blancheur. Sauf sur les affiches. Le persil, vous savez, la blancheur. C'est la blancheur. Vous allez avoir un linge blancheur, la plus pure possible. Non, vous expérimentez le blanc du mur, le blanc d'un vêtement, le blanc d'un visage. C'est la même chose pour la liberté. Il y a des actes libres, puis vous êtes passé à l'abstrait, la liberté. Vous n'avez jamais expérimenté la liberté. Sauf quand vous voyez la statue de la liberté. Mais c'est une statue. Et à ce moment-là, c'est plus la liberté. Ça, c'est capital pour nous. On ne progresse que par l'expérience. Quand vous voulez savoir ce que c'est que la liberté, il faut revenir à l'analyse d'actes libres. Quand vous voulez savoir ce que c'est que l'intentionnalité, il faut revenir à diverses intentions. Au niveau affectif, l'intention morale, le projet au niveau artistique. Alors à ce moment-là, vous pouvez comprendre progressivement qu'est-ce que c'est que l'intentionnalité. C'est ce que vous portez en vous, dans la connaissance ou dans votre volonté. En vue de réaliser quelque chose. C'est quelque chose que vous portez et que vous devancez l'œuvre. Un projet, c'est devancer l'œuvre. Une idée, c'est devancer l'œuvre. Vous portez ça en vous. Et par là, vous pouvez vous orienter vers. Si vous n'aviez pas de projet, vous n'auriez aucune orientation. Si vous n'avez pas d'intention, vous ne pourriez pas agir. L'intentionnalité, c'est donc anticiper le réel. C'est prophétique, oui. Toute intentionnalité est prophétique. C'est pour ça qu'on dit que l'artiste est un prophète. Parce qu'il a des idées qui sont vraies ou fausses, mais vous anticipez, c'est très curieux. Votre intelligence permet de devancer le réel. L'intentionnalité, c'est de l'ordre du possible. Mais ce n'est pas le réel encore. Et alors, l'ontologisme, ce qu'on appelle l'ontologisme en philosophie, c'est de croire que l'intentionnalité, c'est le réel. Vous savez, c'est comme celui qui est un peu malade de la tête. Il croit que tous ses rêves, c'est la réalité. Ça arrive, ça. J'ai eu un cauchemar cette nuit. Et vous vous réveillez, vous avez de la peine à distinguer le cauchemar du réel. Puis dès que vous le faites, la réalité, vous dites, ah, heureusement, c'était un cauchemar. C'était pas le réel. Alors, quand on est trop dans les idées, remarqué, quand on réfléchit tout le temps dans les idées, au bout d'un certain temps, on croit que les idées, c'est le réel. Ça, c'est la maladie du philosophe. Il croit que ses idées, c'est le réel. Et alors, à ce moment-là, on tombe dans l'ontologisme. L'ontologisme, c'est la grande maladie de la philosophie occidentale. Depuis Descartes jusqu'à Hegel, jusqu'à toutes les idéologies athées, toutes sont dans l'ontologisme. Et il y a un ontologisme de droite, qui est celui des curés, c'est Malebranche, qui était prêtre et qui était philosophe. Et puis l'ontologisme de gauche, toutes les idéologies athées, mais ils sont des contraires qui se regardent. C'est très curieux, ça. Et c'est très intéressant de voir que l'ontologiste de droite a été le lit de l'ontologiste de gauche. Et il y a diverses formes d'ontologisme, parce que l'intentionnalité est affective, artistique, mathématique, scientifique, philosophique. Il y a diverses formes. Alors, ce serait très intéressant. Ça n'a pas été fait. Faire une critique des diverses modalités de l'ontologisme. Pour, à partir de là, comprendre les diverses oppositions des idéologies athées. Et c'est contraire, chien et chat, philosophiquement parlant. Chien et chat, le chien étant évidemment de droite, et le chat étant évidemment de gauche. N'est-ce pas ? Mais c'est chien et chat, vous voyez ? Alors on voit très bien ces deux aspects. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous aide à comprendre, vous voyez, l'évolution de la pensée qui, au point de départ, est réaliste et progressivement s'enferme dans l'intentionnalité. Donc, vous voyez toute la différence entre le jugement d'existence qui me met en face de ce qui est, de ce qui existe, de ce qui n'est pas moi, et l'intentionnalité de Descartes qui fait qu'on demeure dans l'idée d'infini, dans l'idée de liberté. Et donc, l'être est saisi à partir de l'intentionnalité du cogito. Et ce n'est pas l'être qui est premier et qui mesure l'intentionnalité. Vous voyez bien, ça c'est très important. C'est toute la différence entre Descartes et Aristote et saint Thomas. Pour Descartes, le cogito mesure l'être, je suis. Donc le je suis est en référence avec le cogito qui demeure dans l'intentionnalité. Donc l'intentionnalité devient la mesure de l'être. Descartes. De Descartes à nos jours. C'est pas commode de dépasser Descartes, vous savez. Il n'y en a pas tellement qui l'ont dépassé. Ils ont eu le désir. Et Descartes nous enferme dans une prison dorée. Le cogito. Je suis intelligent, je cogite. C'est pas être intelligent de cogiter. Être intelligent, c'est atteindre le réel. C'est ça, être intelligent. Ça, c'est raisonner. Je raisonne indéfiniment. Je ne sais pas si c'est réel ou pas réel, sans aucune espèce d'importance. Je suis dans un domaine du cogito. Tandis qu'au contraire, ça, Descartes. Pour Aristote, pour saint Thomas, et nous mettons dans la même lignée Qu'est-ce qu'il y a? Ceci est. Et premier, des mesures. Pensée. Intelligée. Ceci est la mesure. Et donc, la pensée est en référence avec le réel. Réel existant. C'est l'ordre inverse. Tout est inversé avec Descartes. Nous le verrons progressivement de mieux en mieux, ça, parce que c'est quand même très important. Pour découvrir la personne humaine, pourquoi ne pas parler de ceci et... Oui. Ceci est présent dans le « je suis ». Mais le « je suis » apporte quelque chose que ceci ne dit pas. Je ne peux pas penser la personne, réfléchir sur la personne, si je ne découvre pas explicitement ce qu'il y a de tout à fait nouveau avec l'esprit. Je prends le problème autrement, pour que vous compreniez bien. Un bon père dominicain, qui est mort maintenant, donc il est d'accord avec ce que nous disons, n'est-ce pas? Puisqu'il est dans la vision béatifique. Donc il essaie de comprendre la vérité. Un bon père dominicain, qui était professeur à l'Institut catholique de Paris, la dernière année, il n'y a pas très longtemps, quelques années, la dernière année de son enseignement, puisqu'il y avait la limite d'âge, a dit au début, ça m'a été rapporté, c'était pas bête du tout, c'était très intelligent. Au fond, on est en présence de deux métaphysiques. La métaphysique aristotélicienne qui commence par ceci. Lui disait la métaphysique de l'être. Moi j'aime mieux dire la métaphysique de ceci qui est, de ceci est. La métaphysique de l'être. Donc la philosophie première ou métaphysique de l'être. Ça, Aristote. Comme c'était un bon aristotélicien, il savait bien. La philosophie de ce qui est. Ou Descartes, la philosophie de l'esprit. Du cogito. Je commence par le cogito. Et par le cogito, je rejoins l'être. On espère rejoindre l'être. Ne pouvons-nous pas faire la synthèse des deux? L'aspect objectif, l'aspect subjectif. Ne pouvons-nous pas rejoindre les deux? Du moins, faire la synthèse des deux. Parce que c'est quand même très gênant qu'au cœur de la philosophie, il y a une option à prendre. Est-ce que l'objectivité de la philosophie aristotélicienne va-t-elle rejeter la philosophie de l'esprit de Descartes? Est-ce que la philosophie de l'esprit peut-elle rejoindre l'être? Oui, c'est une très grave question. Et je comprends très bien qu'un professeur de philosophie, dans une dernière année, pose le problème comme ça. Eh bien, je dis, personnellement, hein, parce que je ne l'ai pas vu autre part, donc je ne peux pas vous donner une référence. Mais ça m'a beaucoup, Ça m'a questionné, comme on dit, de poser le problème comme ça. Pouvons-nous essayer de dépasser cette opposition objectivité-subjectivité? Est-ce que c'est juste de poser le problème comme ça? Je dis non, c'est pas juste. Je suis dans une impasse. Comprenons tout simplement que la philosophie du ceci est jugement d'existence. C'est très juste pour garder le réalisme. J'analyse le ceci est en philosophie première. Le « je pense, je suis » contient le jugement d'existence, ceci est, mais ajoute quelque chose de plus, l'immanence de la pensée qui me fait rejoindre Il n'y a pas d'opposition dialectique entre le ceci est et je suis. Je refuse complètement l'opposition dialectique entre les deux. Et tout est là, vous voyez. Donc, c'est au point de départ qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas d'opposition dialectique entre le ceci est et je pense et je suis. Et c'est par là que je comprends que l'être, ceci est au-delà de la distinction objectif-subjectif. Cette distinction objectif-subjectif est une distinction qui est née à partir de l'idéalisme. Et non pas à l'intérieur de l'être. Donc, une métaphysique de ce qui est, de l'être en tant qu'être, doit pouvoir intégrer tout ce qu'il y a de juste dans le « je suis » et atteindre par là, d'une manière objective, la personne. D'une manière réelle, la personne, par le je suis. Donc, vous voyez comment je tiens beaucoup à cette affirmation du je suis, parce qu'elle me permet d'intégrer tout ce qu'il y a de juste dans le ceci est. Donc, à partir de l'être, intégrer l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire la pensée et l'amour spirituel, puisque l'esprit implique la pensée et l'amour spirituel, ne s'oppose pas à l'être, puisque l'esprit n'est pas autre chose qu'un être qui atteint son sommet. L'esprit, c'est l'être parfait. C'est l'être parfait. Et cet être parfait se manifeste à moi à travers la pensée et à travers l'amour. Qu'est-ce qui est plus être, penser ou aimer ? Vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez dire la pensée représente une noblesse de l'être unique. Il n'y a rien de plus noble que de penser. Et l'amour, représente quelque chose d'ultime dans l'ordre de l'être. C'est pour ça que pour un être limité, l'amour est toujours ce qui est ultime. Et sa noblesse est dans l'amour, puisqu'il se dépasse pour rejoindre ce qui est premier. On va voir ça à propos de la personne. Donc voyez bien comment ne posons pas le problème philosophie objective, philosophie subjective. Comprenons tout simplement que pour nous, nous devenons progressivement un être qui atteint d'abord ceci est et qui atteint d'une manière ultime, je suis. Alors ceci nous remet à pied d'œuvre par rapport à notre problème philosophique de la personne. Le je suis ne s'oppose pas à ceci et, mais l'implique. Alors, si je veux comprendre maintenant toute la richesse du « je suis », je reviens au point de départ du « je suis » dans le jugement d'existence « ceci est ». « Je suis est ». C'est évident. La différence entre « ceci est » et le « je suis », c'est la différence entre le « ceci et ». Mais vous comprenez que cette différence est relative à « et ». Affirmer « et », troisième personne du verbe être, et première personne, c'est le même, la même signification de l'être. Au niveau de l'être, et suit, c'est la même réalité. C'est l'être. Donc l'être est au-dessus du ceci et du je. Ça, je crois qu'on peut le comprendre. Hein. Grammaticalement, on peut le comprendre très bien. Et profondément, on peut comprendre que la signification de l'être est la même dans ceci est et dans je suis. Et que ceci est relatif à l'être et je est relatif à l'être. Donc, c'est tout simplement deux modalités différentes de l'être. Donc, il ne peut pas y avoir d'opposition dialectique entre les deux. L'être assume ceci, je. Et c'est ça qui m'intéresse au point de vue métaphysique. L'être assume ceci, donc n'importe quoi, et je. Le je est ordonné à l'être. Tandis que si je prends le moi psychologique, le moi psychologique est regardé pour lui-même. Dans le je suis, le je est ordonné à l'être. Question d'accent, question d'orientation. Je peux m'enfermer dans l'intentionnalité. Moi, c'est moi. Mon vécu, c'est mon moi psychologique. Je peux au contraire faire l'effort profond, de dépasser l'intentionnalité et d'atteindre ceci est. Vous comprenez pourquoi je commence la métaphysique et la philosophie première par le jugement d'existence ? Parce que c'est plus facile de dépasser ceci que je. Ça, c'est psychologique. Et donc, pour me mettre vraiment en face de l'être, je commence par le jugement d'existence et non pas par le je suis. Mais une fois que j'ai fait toute l'analyse à partir de ceci est, toute l'analyse de l'être en tant qu'être, je vois que toute cette analyse est présente dans le je suis. Ça exige une certaine attention à ce jugement d'existence et à ce jugement je suis. C'est très important, ça. Une fois que j'ai constaté cela, et nous pouvons tous le constater, il suffit d'être honnête, sans aucun a priori. Et le langage est là pour l'affirmer, comme un petit signe. Mais autrement dit, quand je dis ceci est, je peux référer l'être à ceci, je peux au contraire référer ceci à être. Une question, encore une fois, une question d'accent. Quand je dis je suis, je peux référer le je à l'être, l'exister, ou au contraire faire l'inverse. Je m'enferme dans le « je » et je le traduis par « moi ». Je m'enferme dans le vécu. Donc, ça, je crois que nous pouvons tous le constater. C'est très important. L'erreur au point de départ a d'immenses conséquences après. Donc, c'est l'être. Et seulement l'être qui me permet d'être au-delà du ceci et du je. Mais si j'insiste sur le ceci et le je, alors à ce moment-là, je forme une opposition entre les deux. Je dis ceci est objectif, le je est subjectif. Et je divise la philosophie métaphysique en deux. La métaphysique de l'être et la métaphysique du moi. Je ne veux pas cela, parce que les deux sont en référence à l'être. Mais l'être est saisi comme extérieur, l'être est saisi comme intérieur. C'est intéressant de voir ça. C'est que l'être a deux pôles. Un pôle extérieur, un pôle immanent, intérieur. L'être est au-dessus de cette distinction. Puisque l'extériorité à moi est saisie comme existante, et l'intériorité à moi est saisie comme existante. Donc l'être est au-dessus. Ça, c'est très important, hein, de comprendre que l'être est au-dessus de l'objectivité, de la subjectivité. C'est capital, même. De saisir que l'être est souverainement objectif. Il est méta-objectif. Il est méta-subjectif. Une fois que j'ai fait cette constatation, je peux immédiatement comprendre que le je suis qui contient ceci et implique toute l'analyse métaphysique, toute l'analyse que j'ai faite au plan métaphysique, c'est pour mieux comprendre « je suis ». Or, cette analyse métaphysique, je ne peux pas la reprendre avec vous, hein, parce que ce serait trop long. Il faudrait faire toute la métaphysique. Alors croyez que cette analyse existe. Alors ça vous donne le goût d'entrer dans la métaphysique. L'analyse métaphysique, je dis bien l'analyse métaphysique, essaie de comprendre ceci est. Ceci est regarde l'homme, puisque l'analyse métaphysique, autant que possible, commence par la réalité la plus parfaite. Il vaut mieux. C'est déjà difficile de saisir l'être. Donc il vaut mieux le regarder dans le point de vue de la personne humaine, c'est-à-dire dans l'homme, plutôt que dans une feuille de papier. Je me souviens, ayant fait un cours de métaphysique dans le temps, c'était pas ici, je voyais un étudiant, pendant que je parlais, avec une feuille de papier. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous faites ? Mais cette feuille de papier existe. Ceci est. C'est bien évident, ceci est. Ceci aussi existe. Ceci aussi existe. Alors, toute l'analyse que je faisais, il l'a pensée par rapport à une feuille de papier. Alors je dis, écoutez, soyez intelligent. La feuille de papier, c'est un être artificiel. Ceci est un être artificiel. La table est un être artificiel. Donc, ne cherchez pas à découvrir l'être dans un être artificiel. L'être artificiel, celui que l'homme a fait, c'est un être second qui dépend de l'homme qui le fait, qui est en référence avec l'homme. L'homme est plus être que l'œuvre qu'il fait. Or, si j'analyse ce qui est en tant qu'être, cette analyse est déjà tellement difficile qu'il vaut mieux la regarder par rapport à l'homme. Parce que l'homme est quand même une réalité plus parfaite que l'œuvre qu'il fait. Donc toute la métaphysique regarde l'homme existant. L'homme en tant qu'il est. J'interroge au point de vue métaphysique, qu'est-ce ? Qu'est-ce l'être ? Qu'est-ce ce qui est ? Parce que être, c'est la formule abstraite de ce qui est. L'infinitif du verbe est toujours plus abstrait que le présent. Ça, la bonne grammaire. Hein. Ceci est l'être. Oh, l'être. Hein. C'est l'infinitif de ceci est. Donc c'est abstrait. Donc revenez toujours à ceci est. Et ne regardez pas l'être. Parce que vous n'y comprendrez rien du tout. Quand vous regardez l'être, 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 qu'est-ce que c'est que l'être ? Non, regardez, ceci est l'homme, vous. C'est ça qui est magnifique en métaphysique, c'est qu'on transporte toujours avec soi son laboratoire. Le laboratoire métaphysique, c'est moi. C'est vous. Puis on n'a pas besoin de microscope électronique pour saisir l'être. C'est curieux. Hein ? Ça fait tout semblant d'être intelligent. C'est quelquefois plus difficile que de se servir du microscope électronique. Être éveillé dans l'intelligence. C'est que celui qui sert du microscope électronique, une méthode, lorsqu'il faut faire, bien, regardez le résultat. Pensez pas. Parce que vous arrêteriez le microscope électronique. Donc, pensez ce qu'est l'homme. Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce l'homme ? Qu'est-ce l'être ? Qu'est-ce ce qui est ? Vous découvrez la cause selon la forme de ce qui est. Hein ? Vous voyez ça ? La cause, c'est-à-dire ce qui est premier, selon la forme de ce qui est. Et vous découvrez la substance. L'ousia. Il faut du temps, il faut du temps. Il faut une démarche inductive. Grâce à une démarche inductive, je découvre dans moi, dans ce qui est, comme ce qui est, c'est moi, ou dans celui qui est en face de moi, je découvre la détermination fondamentale de ce qui est. Et je l'appelle ousia, en grec, avec le respect de celui qui le premier a donné un nom métaphysique à ce qui est l'homme, dans ce qu'il a de plus profond, l'ousia, la substance. C'est Cicéron, hein, Cicéron, qui a fait le passage de l'ousia à substantia. Mais Cicéron, ce n'est pas un philosophe, hein, c'est un rhéteur. Il parle très bien. Mais il parle trop bien, vous voyez. Alors il est séduit par la parole, il ne regarde plus la réalité. Quand vous êtes séduit par le microscope électronique, vous ne regardez plus la réalité. Il y a pas mal d'abstractions. Hein. Le résultat, quelle différence y a-t-il entre ce que vous voyez avec le microscope électronique et le réel existant? Parce que le microscope électronique vous donne une intentionnalité. C'est modifié. C'est plus le réel existant. Le fondement, oui, le fondement, lointain. Mais vous êtes dans l'intentionnalité. Et vous croyez que cette intentionnalité, c'est le réel. Vous voyez l'ontologisme. C'est très curieux, ça. Et tout le monde continue de prendre les résultats comme c'était la réalité. Alors, entre deux, il y a une abstraction. Le philosophe veut rester, lui, en contact tout le temps avec le réel. Ça, c'est l'exigence du philosophe. C'est pour ça qu'il ne se sert pas du microscope électronique. Ah, c'est une exigence radicale. Hein. Merleau-Ponty dit qu'on découvre alors l'être sauvage. J'aime beaucoup cette expression. Le philosophe est un être qui veut être sauvage. C'est-à-dire tout le conventionnel, toute l'intentionnalité, on bazarde tout ça et on veut l'être réel. Celui qu'on touche, celui qu'on voit, celui qu'on aime. Parce que vous n'aimez pas l'intentionnalité. Vous ne pouvez pas aimer l'intentionnalité. Vous aimez ce que vous voyez au bout du microscope électronique? Est-ce que c'est charmant? C'est délicieux ce que je vois? Mais est-ce que c'est le réel? Vous ne pouvez aimer que le réel. Ah, là, on touche quelque chose de très très grave, vous voyez, par rapport à notre culture. Donc, l'induction, c'est un procédé de l'intelligence qui me conduit à découvrir un principe propre, qui est une cause, et c'est l'ousia. Donc, je suis implique une substance, quelque chose de radical, mais non pas seulement le principe, mais le principe tel qu'il existe en moi. C'est là où je peux dire que le « je suis » implique une certaine autonomie dans l'ordre de l'être. Et Boès a raison de dire que la personne est substance. J'aime mieux dire « le « je suis » implique la substance ». Une substance qui n'est pas seulement le principe, c'est bien le principe, il est présent. Mais la manière dont ce principe existe en moi, il existe en moi d'une façon tout à fait individuelle. La substance existe en moi d'une manière tout à fait individuelle, d'une manière tout à fait concrète, d'une manière telle que la substance qui existe en moi est unique. C'est très heureux de trouver son originalité substantielle. J'existe d'une manière unique. Je n'ai pas besoin de pont-levis pour qu'on vienne pour garder mon autonomie. Mon autonomie, elle est dans mon être. Et tout le monde peut la voir. Je ne la cache pas. Tout le monde peut la voir. Mais mon autonomie, elle est radicale. C'est ma substance. Donc, c'est la source de toutes les déterminations qui sont en moi. Et toutes les déterminations qui sont en moi, puisqu'elles proviennent de ma substance, qui est le principe de toutes les déterminations, et que cette substance, elle existe en moi d'une manière unique, toutes mes déterminations auront quelque chose d'original. Jusqu'à mon nez, jusqu'à mon regard, il est unique. Quand vous regardez quelqu'un d'unique. Et vous pouvez dire ça, chacun d'entre vous, c'est merveilleux. Vous voyez, quand on a peur de ne pas être assez original, mais creusez votre « je suis », votre personne, il n'y a rien de plus original. Vous êtes unique. Pas étonnant qu'on vous aime, vous êtes unique. Quelqu'un de curieux aime quelque chose d'unique. Vous chercherez à travers l'univers entier, vous ne trouverez jamais quelqu'un comme moi. Et c'est extraordinaire. Très jamais. À travers l'univers entier, métaphysiquement, dans le « je suis », j'atteins ça. Alors, ça peut être source d'une humilité radicale ou source d'un orgueil. Oui, la grenouille qui va devenir aussi rose que le bœuf. Puisque je suis unique. Je suis unique. Alors vous voyez, c'est source à la fois de ma précarité. Être unique. C'est pas commode d'être unique. Parce que c'est source de solitude. Oh, je suis seul au monde. Oui, il y a quelque chose de vrai. Je suis seul. Et on n'arrivera jamais de l'extérieur à saisir ce que moi je saisis d'intérieur. Et l'intériorité de l'être. Je ne pourrai sortir de cette solitude absolue que quand, métaphysiquement, j'aurai découvert le Créateur. Seul le Créateur connaît d'une manière exhaustive mon être, puisqu'il vient de lui, puisque c'est lui qui l'a créé. Et dès que j'ai découvert mon Créateur, je respire métaphysiquement, puisque je sors de ma solitude. C'est extraordinaire, ça. Je comprends que ceux qui disent que Dieu n'existe pas, c'est terrible, ils sont orphelins. Et être orphelin métaphysiquement, c'est la chose la plus terrible qui soit. Parce que c'est la solitude métaphysique absolue. Mais il faut avoir une grande pitié pour les athées. Parce que c'est terrible de ne pas comprendre qu'il y a une source plus profonde que ma petite source à moi. Ma petite source à moi, c'est ma substance. Il faut l'entendre de temps en temps. C'est comme une source, on l'entend dans la forêt. C'est merveilleux d'entendre une petite source. Eh bien, ayez l'ouïe métaphysique. Pas commun d'avoir l'ouïe métaphysique. Pour entendre cette petite source, cachée, très cachée, cette petite source qui est votre substance. Et votre substance, c'est votre âme. C'est votre âme. Votre âme est votre substance. Et elle est source de toutes les déterminations. Alors écoutez cette source. Vous voyez, l'ouïe métaphysique. Quand on écoute « je suis », « j'entends », c'est un langage poétique métaphysique. On en a besoin de temps en temps. Parce que quand on touche quelque chose de très très profond, on risque de croire que c'est abstrait. C'est pas abstrait du tout. Il n'y a rien de plus concret que la métaphysique. Puisque je touche ce qui est absolument ineffable et unique. Je touche, je suis. Et je suis radicalement dans cette source qui jaillit de moi. Et dès que je découvre l'être premier, je découvre le je suis premier. Qui lui est source. comportement de ma source. Et alors je ne suis plus seul. Alors voyez comment la personne humaine, quand je la découvre, et plus j'avance, plus je la découvrirai. C'est déjà très beau de découvrir cette substance originale individuelle. Oui, Boès touche ça un peu d'une manière logique. Alors, ça ne vibre pas assez, substance individuelle. Il faut redécouvrir ce que Boès a dit. Et le redécouvrir dans toute sa vitalité métaphysique, dans toute sa force métaphysique. L'intelligence est capable de découvrir au plus intime de moi cette source, cette substance, mon âme, source de toutes les déterminations qui sont en moi, source de mon autonomie, source de ma solitude métaphysique. Mais aussi, quand j'aurai découvert l'existence de l'être premier, qui est créateur, aussi source qui me conjoint à la source de tout être, de toute substance, de toute personne, la source, Dieu, créateur. Plus intime à moi-même que je ne suis intime métaphysiquement à moi-même. Dieu ne fait pas nombre avec ma substance. Il ne fait pas nombre avec cette source que je découvre en moi. C'est merveilleux, ça. Quand on découvre cela, on se dit, mais dans mon « je suis », il y a cela. Et si je ne découvre pas ça, je suis très à l'extérieur. Je suis mondain. Un métaphysicien mondain. C'est le pire de tout. Oui, parce que soit artiste mondain, ça peut aller, mais un métaphysicien mondain, non, alors là, c'est la falsification la plus terrible de ce que c'est que la métaphysique. Oui, on vit à l'extérieur. Mais à l'extérieur, vous n'atteindrez jamais ce que vous êtes dans votre originalité. Vous vous atteindrez relatif aux autres. Faut faire attention de ne pas être mondain métaphysiquement. Alors à ce moment-là, on transforme la substance en relation.